Donc deuxième partie de l'enseignement cycle 1, formation fondamentale sur le Notre Père. Et nous continuons à méditer sur que ta volonté soit faite avant d'aborder les quatre dernières demandes. Je fais un petit rappel pour ceux qui démarrent dans l'enseignement. Les trois premières demandes sont les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Et les quatre autres sont un chemin de progression chrétien. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Et ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Ces quatre-là sont le chemin. Donc nous en sommes en terminant que ta volonté soit faite. Je disais ce matin le lien qu'il y a entre la volonté de Dieu et l'amour de Dieu, c'est lié pour un chrétien, et cela, c'est la plus grande vertu théologale, qui est la vertu de la charité. J'aime vraiment Dieu quand j'aime sa volonté sur moi et sur les autres, parce que la volonté de Dieu exprime son amour pour moi et sur les autres. Et la mesure que j'ai de la réception de la volonté de Dieu dans ma vie, ou en aidant les autres à découvrir la volonté de Dieu dans leur vie, et la qualité de ma réception à l'amour de Dieu pour moi, ou la manière dont j'aime les autres, parce que la plus grande manière d'aimer les autres, c'est de les aider à découvrir la volonté de Dieu sur eux. Et de séparer la volonté de Dieu ou l'amour de Dieu ou l'amour des autres, c'est une manière moderne de penser un amour libéré du plan de Dieu sur nous. Mais en fait, ce n'est pas aimer vraiment les autres. Si nous avons compris profondément, au-delà de toutes les peurs, les incertitudes, les projections d'un Dieu totalitaire ou je ne sais quoi, que la volonté de Dieu profondément, elle est bonne. Elle est libérante. Elle nous veut du bien. Que nous le comprenions au départ ou pas, la volonté de Dieu est bonne pour nous. J'en reparlerai tout à l'heure, mais notre condition de pécheur fait que nous voyons parfois les vérités révélées, même un peu toujours, en pénombre. Il y a du bien, mais on n'est pas complètement sûr. C'est dans la pénombre, la grisaille. En fait, elles sont profondément bonnes, elles sont en pleine lumière, en plein soleil, mais nous les percevons dans la grisaille. On n'est pas toujours sûr que la volonté de Dieu soit bonne. On n'en est pas convaincu. On croit parfois que c'est une forme de forceps, nous disons de mode ascétique, que ta volonté soit faite. Allez, un peu d'endurance, mon ami. Mais la volonté de Dieu, elle est profondément bonne. Même si elle va passer par des détours qui peuvent être douloureux, la finalité, c'est qu'elle est toujours bonne. Mais il nous faut passer de la pénombre au plein soleil, par une grâce de purification, d'illumination, et c'est ça le chemin spirituel, pour découvrir qu'en fait, elle est profondément bonne. Et souvent, et moi le premier, qui vivons un peu dans la pénombre, dû à une incertitude due au péché, mais due aussi à notre lourdeur à croire pleinement, eh ben on y va à moitié. Est-ce que l'eau est chaude, ou qu'elle est tiède, ou elle est frileuse, on ne sait pas trop, donc on y va à moitié. Et en fait, il faut vraiment y aller à fond, et nous tardons à vraiment aimer parfois Dieu pleinement en disant « J'adhérerai à toute ta volonté sur ma vie, parce qu'en fait c'est ton projet d'amour sur moi. » Voilà, ça c'est important, et donc c'est un chemin de conversion, c'est-à-dire un chemin d'accueil de du plein amour de Dieu sur ma vie. Voilà. Et on sait que l'accueil de l'amour, c'est la vivre de la vertu théologale, de la charité, puisque c'est un don surnaturel qui m'est donné. Et ça se manifeste pas de manière, j'allais dire, désincarnée. Ça passe d'abord par la prière, c'est le canal de la grâce, de la charité, mais je rajouterai des éléments qui sont extra, qui sortent du commentaire de notre Père, mais pour nourrir un peu, pour garnir cette conception de la volonté de Dieu. Les chrétiens, on en parle peut-être moins souvent, c'est ce que dit le Père Joël Guibert dans un livre. On en parle moins souvent, mais pourtant ça fait partie de la grande tradition spirituelle. On a parlé autrefois de l'union des volontés. Voilà. De l'union des volontés entre ma volonté et la volonté de Dieu. Et nous savons que dans le cheminement spirituel, plus le cheminement se fait, plus l'union des volontés est grande. On mesure d'ailleurs le cheminement chrétien à l'union de sa volonté à Dieu. Ça, c'est très important. À la fin, ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Non pas que nous disparissions, mais nous sommes vraiment fondus dans l'amour. On reste soi-même, c'est pas du bouddhisme, on n'est pas dissous, mais en même temps, on est vraiment dans l'amour de Dieu. Ce qui fait que ce qu'on demande à Dieu est uni à sa volonté et profondément exaucé. Et tout est ajusté. Alors, cette volonté de Dieu peut s'exercer dans la vie concrète de plein de manières. Mais j'en dirai une qui me semble importante. Père Joël Guibert signale qu'il y a deux manières de reconnaître généralement deux grandes familles de la volonté de Dieu dans nos vies. Il appelle cela la volonté signifiée et un autre terme qui semble en apparence capricieux, le bon plaisir divin. Mais pourtant l'un et l'autre sont vrais. La première partie, la volonté signifiée, c'est le standard. Nous le connaissons, c'est-à-dire c'est vivre les commandements de Dieu qui nous sont proposés dans l'Écriture, qui nous sont approfondis, le décalogue, l'Évangile, les commandements de Dieu, qui sont aussi approfondis dans le magistère de l'Église, qui ne fait qu'approfondir ce que dit l'Écriture, d'accord? Et du coup, c'est vivre la volonté de Dieu dans ma vocation, dans mon état de vie, avec ses devoirs d'État. Ça, c'est le standard. Mais le standard, c'est très signifié cela, c'est très clair. Donc souvent on se dit, mais c'est quoi la volonté de Dieu d'abord sur ma vie? Le Seigneur, il a donné quand même des repères. Et on peut dire que déjà ça, objectivement, c'est la volonté de Dieu sur nous. Et dire l'inverse, ça voudrait dire qu'on connaît rien du tout de la volonté de Dieu. Or c'est pas vrai, Dieu s'est révélé, il a dit des choses. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est vraiment important, j'allais dire, pour ceux qui penseraient qu'on ignore la volonté de Dieu sur nous. Non, non, on sait où on va, la sainteté, et il y a des balises, des standards, entre guillemets. Ceci dit, les standards sont des standards, et comme tout standard, ils sont impersonnels. Même s'il y a des grandes familles de catégories d'état de vie, où la volonté de Dieu, entre guillemets, standard, va s'appliquer selon des modalités. Toujours est-il que ça reste un peu standard. Et le risque du standard, c'est de dire, bon, ça y est, je suis en règle, ça va bien. Et on peut dire, ça y est, j'ai rempli les commandements de Dieu un peu signifiés, et maintenant, je suis dans les clous, ça va, je suis bien, quoi. Et non, c'est pas suffisant. C'est plus profond que ça, la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu s'exerce aussi par le bon plaisir divin. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a l'air capricieux, ça m'a l'air pas très sûr, ça. En fait, précisément, Dieu agit d'une manière unique pour chacun de nous. À travers le signifié, les commandements qu'il donne, il va les personnaliser, nous aider à les personnaliser d'une manière unique, selon notre génie, selon nos talents, les circonstances où nous sommes et notre progression spirituelle du moment, là où nous en sommes. Et la volonté de Dieu va s'adapter. Ah oui, bon, ça c'est la théorie. Mais dans la pratique, entrons tout de suite dans le concret, la volonté de Dieu se pose dans l'instant présent. L'instant présent me signifie la volonté de Dieu pour moi. Je ne rencontre Dieu que dans la jonction avec l'instant présent. Et aussi vrai que dans l'instant présent, je peux dire si oui ou non, selon les grands commandements de Dieu, je corresponds au plan d'amour de Dieu pour moi. Nous rappelons que les commandements, c'est l'alliance, donc c'est vraiment une confiance d'amour. Toujours est-il, il se manifeste dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, il peut m'arriver un élément qui était imprévu. Il peut m'arriver la banalité. Il peut m'arriver un élément douloureux. Et comment je l'accueille? Comment je crois que cet événement peut m'aider parce que Dieu sous-tend le réel et qu'il est là et que je peux le rencontrer si j'y adhère pleinement? Non pas qu'il m'arriverait par exemple quelque chose, un deuil, je dise « Merci Seigneur d'avoir tué la personne ». Mais non. Mais comment je pose un acte de confiance? Comment je vais poser un acte d'espérance et que surtout Dieu m'assiste à ce moment-là et que sa volonté, ce n'est pas fuir ce moment, mais c'est de la vivre avec plénitude, avec pleine intensité. Vous voyez? La volonté de Dieu n'est pas ailleurs de ce moment-là. Elle est là. Et là, nous voyons que ce moment est beaucoup plus personnalisé que la loi standard, puisque c'est ma vie personnelle dans les éléments de ma pauvreté ou de mes richesses, où là je suis rejoint. Et il n'y a que moi qui peux vivre ça. Et la manière dont j'y consens, dont j'y adhère, avec discernement, avec tout mon élan, va faire ou pas que j'adhère à la volonté de Dieu. Je peux fuir l'instant présent. Je peux me rebeller contre l'instant présent. Je peux vivre l'instant présent sans la foi, sans la pleine adhésion, sans l'accueil. Et en fait, je fuis la volonté de Dieu sur moi. Je peux rêver d'un plan qui n'est jamais le plan de Dieu sur ma vie. Combien, et moi le premier, de chrétiens se révoltent de l'instant présent, voulant un autre plan de Dieu sur leur vie, mais Dieu les guide ainsi. Alors ils mettent un temps fou, puis un jour ils disent « Bon, mais j'ai plus d'armes, alors qu'est-ce qu'on fait ?» Mais ils ont perdu un temps fou, alors que la volonté de Dieu était en train de les travailler pour ça. Le plan d'amour divin passait par là. Ah oui, mais alors à ce moment-là, c'est pas comme je veux. Eh bien non, mais c'est pas comme je veux. C'est la volonté de Dieu. Est-ce que nous l'accueillons ou pas? Parce que souvent nous prions en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ma volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. » Mais non, c'est pas ça. Donc là, il y a un vrai enjeu d'accueil de l'instant présent. Ça peut être les événements, les moments joyeux ou douloureux. Et si nous savons les regarder, combien plus en plus il y a d'éléments joyeux que nous ne voyons pas. Souvent, on pense que le standard est donné, que Dieu n'intervient plus après. Mystérieusement, il est l'éternel absent de ma vie. Mais je ne sais pas repérer tous les événements qui m'arrivent. Si je prenais une journée entière et que je mesurais les événements qui m'arrivent, mais Dieu est présent, mais sa volonté est en train d'agir. Et oui, parce que quand nous disons souvent la volonté de Dieu, dans notre tête, en arrière-fond, parce que parfois nous vivons dans la pénombre, Dieu, on n'est pas sûr vraiment qu'il soit très très bon. On pense qu'il est bon, mais... Et si nous voyons dans l'instant présent la réalité, le concret, nous verrions que Dieu est empli de tendresse pour nous, est rempli de tendresse, et qu'il y a de merveilleuses choses qui se jouent dans l'instant présent, qui nous sont données, qu'il ne suffit pas de vivre, mais d'accueillir dans la foi, comme la volonté de Dieu. J'étais émerveillé un jour de recevoir un frère qui me dit « Prends soin de toi, mon ami ». C'était extraordinaire, parce que ce jour-là, j'ai compris que c'était le Seigneur qui était en train de me dire ça. Vous voyez l'idée qu'on a du Seigneur, un peu loin, « Je vais arriver à faire ta volonté, allez, on y va, c'est dur, mais on y va ». Et là, j'entendais de la part du Seigneur quelqu'un me dire « Prends soin de toi, comme le Seigneur est doux, comme le Seigneur est bon, dans des choses très précises, voyez, la volonté de Dieu. Et des fois, le Seigneur va nous gâter, mais vraiment nous gâter comme un bon père, à travers de petites choses. Mais c'est la volonté de Dieu. Ah, elle est belle, la volonté de Dieu. Et par moments, dans les moments plus pénombre, de douleur dans la vie, la volonté de Dieu va nous accompagner. Si le Seigneur, on va voir, permet tel ou tel événement, je reparlerai dans « Ne nous laisse pas rentrer en tentation », sa volonté, c'est que de nous faire grandir à travers ça, je vais en reparler, mais comme il est bon et comment il nous accompagne. Donc là, encore une fois, quelle crainte nous avons sur la volonté de Dieu. Voyez, la volonté de Dieu. Je prends un exemple concret, c'est les vocations. Il y a un cheminement qui est en train de se faire, et gloire à Dieu, de conversion là-dessus. Mais en parler à certains chrétiens, je juge personne, je n'amalgame personne, mais ce que je voudrais dire, c'est cet exemple. Un jour, il m'était remonté une personne chrétienne, voilà, qui avait la foi, et on m'a dit, mais c'est peut-être qu'un jour, il y aura des enfants dans votre famille qui seront prêtres, voilà, religieux. Oh, surtout pas, par pitié, non. Ce serait dur. Hein. Non, mais c'est quoi cette conception de la volonté de Dieu? Si Dieu appelle, c'est que c'est bon. Ah, on n'est pas très sûr, peut-être que c'est du sacrifice. Mais c'est pas la volonté de Dieu, ça. Vous voyez? Donc il y a une vraie confiance à poser que c'est bon. Que les événements de nos vies qui nous arrivent, douloureux ou pas, Dieu les guidera pour un terme d'amour. Et que si nous savons observer, beaucoup de choses sont très bonnes et très douces, faites par le Seigneur. Voilà. Thérèse dira, je leur dirai, je chanterai tes miséricordes à la fin de sa vie. C'est quand même quelqu'un qui va mourir à 25 ans, atteint de, je crois, d'une grave maladie. Voilà. Et pourtant, elle dit ça. Donc, elle a dû voir toutes les délicatesses du Seigneur. Donc, elle a vu combien est belle la volonté de Dieu. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment rentrer avec cette attitude-là. Voilà. Que l'amour de Dieu est vraiment à l'œuvre. Et donc, essayez, et moi le premier, que les yeux de la foi enlève la pénombre pour voir la réalité telle qu'elle est et non pas telle que nous la présupposons. Voilà. Là, il y a un vrai travail à faire. Et puis aussi, la volonté de Dieu nous est connue dans la prière. Je disais, pas simplement le standard, les événements, mais quand le Seigneur nous dit « Écoute Israël » dans l'Ancien Testament, et le Père nous le redit dans le Nouveau Testament, dans la montagne, la transfiguration, symbole de la prière, là où nous prions par excellence pour notre Père, celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Celui qui apprend à écouter Dieu dans la parole, les événements, qui les note dans son carnet. Alors, il faut toujours avoir un petit carnet dans sa poche, le soir ou le matin, où on note la parole de Dieu, les événements. Alors au départ, on note du n'importe quoi. On veut voir Dieu partout, alors on note tout dans tous les sens. C'est pas sûr que Dieu parle comme ça. Mais toujours est-il, quand nous prenons cette attitude de méditer et d'écouter Dieu, va se décanter le superficiel, les idées qu'on a sur lui, l'imagination qui nous a parlé ou pas, pour arriver à un fil conducteur assez solide. Et quand Dieu a une idée, je vous assure qu'il la répète. Moi, j'ai des témoignages de gens qui ont entendu plusieurs fois le même verset comme un marteau. Parce que quand Dieu nous dit « je vais te faire comprendre quelque chose de très particulier », et il le dit, puis comme il sait qu'on n'entend pas, il le redit. Comme il est sûr qu'on n'est pas sûr qu'on croit que finalement il nous a parlé, il le redit encore. Puis comme il n'est pas sûr, comme il est sûr qu'on n'est pas sûr, que finalement on est sûr qu'il nous l'a dit, il va nous le dire par quelqu'un d'autre. Puis s'il n'est pas sûr, encore quelqu'un. Voir l'événement. Au bout d'un moment, on regarde son carnet, on dit « ça fait 10 fois qu'il m'a dit la même chose, le Seigneur en 2 mois. » Bon, mais la volonté de Dieu, elle est claire. Il faut que j'y aille. Donc, le Seigneur parle dans le temps, comme la Vierge Marie qui méditait ses paroles dans son cœur, elle entendait progressivement la volonté de Dieu. Ceci, c'est une écoute constante qui petit à petit nous fait rentrer dans la volonté de Dieu. Et là, nous voyons qu'elle est personnelle, elle personnalise la volonté de Dieu. C'est plus du standard, ça devient du très précis dans les choses concrètes. Voilà, souvenez-vous de ce conseil, c'est pas de moi. Hein. Pense avant d'agir. Prie avant de penser, pour savoir ce qu'est petit à petit la volonté de Dieu s'éclaire. Voilà. Ou à contrario, j'y vais, je ne sais pas, j'y vais, mais ça va produire un effet de paix profond. Ah, un critère de bonheur, de paix, mais c'est possible que ce soit la volonté de Dieu alors. Donc nous avons plusieurs moyens pour discerner la volonté de Dieu, qui ne sont pas que le standard, vous voyez. Il y a l'événement, l'irruption de la vie, l'écoute, le fruit d'une décision, la répétition de la parole, d'un événement, une interpellation d'église une fois, deux fois, qu'il semblerait. J'ai tel talent, on sent que ça fait du bien quand j'utilise ce talent. Des frères et sœurs me l'ont confirmé. C'est peut-être un don, il faut que je le mette en travail. C'est peut-être la volonté de Dieu sur moi. Voyez. Le Concile dira aussi reconnaître les signes des temps, les appels. Voyez. Ça aide à voir la volonté de Dieu. Dans la même logique, l'accompagnement spirituel, parler à un tiers de son cheminement, avoir un père spi, et pas qu'un forcément un père spi prêtre, ça peut être un homme ou une femme, une mère spirituelle, nous aide à voir la volonté de Dieu. Donc on a plusieurs éléments, et on voit que Dieu, c'est pas du standard. Parce que Dieu profondément personnalise. Je le dis, je redirai quand on fera l'enseignement sur la Trinité, le concept de personne dans l'histoire du christianisme est né pour la Trinité. On a distingué les personnes en parlant Père et Fils et Saint-Esprit de personne. Donc Dieu est éminemment personnel. Donc il ne va pas faire du standard. Parce que celui qui est très personnel, quand il s'adresse à quelqu'un, il le personnalise. Donc en aucun cas, sa volonté, c'est du standard. C'est du sur-mesure. Et c'est du amplifiant personnel. C'est-à-dire, ça va encore plus me personnaliser, me déployer. Ça ne va pas m'atrophier. Vous voyez, c'est beaucoup de choses qui sont à tomber là-dessus. Donc voilà pour l'amour de Dieu qu'on peut connaître dans sa vie, qu'on est appelé à suivre, à grandir là-dessus. Alors nous rentrons maintenant dans les 4 autres grandes demandes, voilà, que je disais qui sont un itinéraire. Une fois que la foi, l'espérance et la charité sont mis en place dans cet ordre, nous rentrons dans les demandes. Et nous pouvons tout de suite méditer « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». L'Église nous dit, dans son catéchisme, « Donne-nous, elle est belle la confiance des enfants qui attendent tout de leur Père. » En effet, dans l'Écriture, en Matthieu 5, 45, Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est bon et qu'il donne par excellent, qu'il n'attend pas qu'on lui demande pour donner. Il donne le soleil aux méchants et aux bons. Il y a plein de choses dans nos vies qui ont été données par pure générosité du Seigneur, et alors que nous n'y avons même pas demandé. Un bel exemple, c'est regarder dans votre vie tout ce que nous avons de bien. En fait, Dieu est la source du bien, ça vient de lui. Regardez chez les non-croyants tout ce qu'ils ont, ça vient aussi de Dieu. Dieu n'a pas entendu que nous lui demandons pour donner, qu'il est bon le Seigneur. Voilà. Et ces enfants-là, ceux qui se reconnaissent comme, qui reconnaissent que le Père est leur origine, que vraiment il y a un Père qui donne, vont continuer à demander. Ils ne vont pas se contenter de ce qu'ils ont reçu, ils vont continuer à demander. Ah bon? Oui, 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 c'est très important, parce que l'enjeu c'est la foi. Voyez-vous, quand le Seigneur nous dit « demandez, vous recevrez », le risque c'est la prudence diplomatique. Oh, j'ai peut-être assez demandé au Seigneur, on va s'en rester là. Oh, c'est pas sûr qu'il va donner, on va en rester là. Et puis, je serai peut-être déçu, peut-être qu'il ne me répondra pas. Je préfère pas être déçu, on va rester là. J'ai ce qu'il faut, tout va bien. Grave erreur. Le Seigneur a dit à Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Je donnerai beaucoup. Je donnerai beaucoup. Le don de Dieu est limité par notre désir. Si nous demandons beaucoup, nous recevrons plus. Ah oui, mais j'ai pas mérité. Ah oui, mais Dieu donne pas parce qu'on mérite. Dieu nous aime. Ce n'est pas du troc, hein. Ce n'est pas comme le commerce. On paye pas pour avoir. Dans le Cantique des Cantiques, celui qui paierait l'amour recevrait qu'un profond mépris, nous dit l'Écriture. C'est gratuit. Ah oui, mais c'est pas toujours comme je veux. Ah oui, mais ça on va voir. Mais Dieu donne. Et d'ailleurs, demandons des choses concrètes. Parce que quand on demande des choses évasives, on s'engage pas. Très facile de dire, de moi, voilà, une joie. Non mais donne-moi des choses concrètes. Dieu prend au sérieux nos demandes concrètes. Je me souviendrai de ce témoignage d'un prêtre qui racontait que pendant une retraite, il va voir un autre prêtre, il lui dit comment il prie et tout, puis l'autre le casse d'un coup en lui disant, je paraphrase, mais c'est ça, c'est nul. Le prêtre ne comprend pas, il dit, mais tu demandes rien à Dieu? Ah non, 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 très fier, non, non, tout va bien, je suis bien, quoi, je suis en règle, c'est super. Voilà, pas besoin de cette faiblesse. Et le prêtre de lui dire, mais en fait, si tu demandes rien, c'est que tu crois que Dieu va rien te donner? Est-ce que tu crois en sa bonté? Conversion. Ah, en fait, c'est vrai. Tu es bon, il doit s'occuper de moi. Si je ne demande pas, c'est peut-être que je doute, mais je ne crois pas qu'il va me donner. Donc il faut demander des choses concrètes. Le concret engage notre foi, parce que c'est en fait notre réel. C'est comme l'instant présent, c'est le réel. On demande. Et Dieu va réagir, va répondre, comme il veut. Mais il va répondre. Il attend cette foi. Je me souviendrai de ce prêtre polonais, quand j'étais en Belgique, qui disait, mais moi je vois des parents venir avec l'enfant au pied de l'autel à la messe, qui disent, Seigneur, guéris-le. Mais ça c'est concret. Je veux dire, tant pis si le Seigneur ne le fait pas, il fait comme il veut, mais les parents ont foi qu'il peut le faire. Alors on ose. On ne va pas avant se censurer. Mettre un obstacle au don de Dieu. Non, si tu peux, vas-y. C'est du concret, là, on a besoin d'aide. Alors, on va prendre les choses plus concrètement encore. Je vous invite à prendre un carnet, à noter le Seigneur, ce qu'il fait dans nos vies, et puis sur un autre côté, le carnet d'intercession. Vous notez toutes les demandes que vous voulez faire à Dieu. Dans un an, vous cochez toutes celles qu'il a exaucées, comme il veut, quand il veut. Vous allez être surpris. Il y a beaucoup plus de demandes qui sont exaucées qu'on ne croit. Ça marche. Ceux qui font la soirée pétale de rose pourraient souvent en témoigner. Donc voilà, il faut prendre Dieu au sérieux. Dieu au sérieux dans le concret. Et voyez-vous, ce cheminement de concret en concret, c'est un cheminement de dépendance. Et ça, c'est très chrétien. Le Seigneur, en Jean 15, nous dit « Demeurez en moi, comme moi en vous, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous ne pouvez rien faire hors de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le chrétien va découvrir dans sa vie, progressivement dans le cheminement, parce qu'on est dans les prières de cheminement, les demandes de cheminement, qu'il est absolument dépendant de Dieu. Donc au départ, il demande le standard, d'accord? Il suffit lui-même. Il pense qu'il peut y arriver tout seul. Ok, mon grand, tu peux y arriver, mais tu peux y arriver que humainement. Très bien, c'est pas chrétien. Chrétiennement, c'est avec mon aide, avec moi, et moi le premier, et toi après. Et donc, petit à petit, la dépendance envahit sa vie. Il parle, « Ah oui, je parle bien, mais Seigneur, aide-moi pour que je parle de manière chrétienne. » Ah, c'est différent. « Seigneur, je sais servir, mais fais que ton esprit soit dans mon service. Seigneur, je vais aider, mais fais que tu sois là. » Et en fait, la prière de demande devient constante, parce que la dépendance à Dieu l'envahit. Donc, la demande, en fait, c'est normal de faire, c'est chrétien, et ça doit être de plus en plus développé dans notre vie. Et c'est très important. Moins il y a de demandes, plus on est indépendant. Ah ben c'est très bien, mais moins on est chrétien. Parce qu'on vit de moins en moins sous la grâce. La demande n'est pas une faiblesse chrétienne. Effectivement, c'est reconnaître qu'on est pauvre, qu'on n'a rien par soi-même. C'est la béatitude, heureux les pauvres de cœur. Hein, ils comptent sur Dieu. Mais en réalité, c'est notre grandeur. Nous ne mettons plus notre foi en nous-mêmes, même si on a des talents ou des richesses, mais en Dieu. Et on demande sans cesse. Et Dieu voit cette humilité de celui qui demande. Voilà. Et il exauce. Il ose. Voilà. Je crois vraiment qu'il ne faut pas aussi, avec Dieu, c'est l'expérience de Thérèse ou d'autres, j'allais dire, oh, mon papa ne va pas m'exaucer, je lui ai déjà toujours demandé ça. Dieu est plus charmé par notre acte de foi que l'objet de la demande. Il est très touché par la confiance. Voyez ? Humainement, souvent, on réagit en disant « J'ai demandé, j'attendrai plus tard. » Non, mais il y en a qui demandent, ils reviennent le lendemain, « Tu m'as donné, j'ai confiance, donne-moi encore. » Ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Vous voyez, c'est cette dépendance chrétienne qui est très importante. Voilà ce que nous dit l'Église à ce sujet. Hein. Jésus nous apprend cette demande, que cette demande glorifie. Elle glorifie en effet notre Père parce qu'elle reconnaît combien il est bon au-delà de toute bonté. C'est fort, hein ? Vous voyez ? Plus nous rentrons dans ce don, donne-nous aujourd'hui, plus nous rentrons dans la vraie lumière de ce qu'est Dieu. Alors, notre pain, je vous ai dit, c'est du concret. Hein. On a besoin de manger. Mère Teresa disait, vous pouvez donner le Christ à les pauvres, mais si vous n'avez pas donné d'abord de quoi manger, c'est plus difficile, quoi. Hein. Voilà. Et me rappelait un séminariste, un futur séminariste camerounais qui me disait, tu sais, Jean-Marie, croire en la providence, c'est bien, mais quand le frigo est vide, c'est plus dur. Donc, il faut savoir donner. Voilà. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'essentiel, de ce qui est nécessaire, et nous pouvons le donner à Dieu, demander à Dieu. Et là, je m'arrête sur un point important, c'est que la demande que nous faisons à Dieu implique forcément pour nous la capacité à donner ce que nous allons recevoir. Ou de prendre conscience que Dieu va donner aussi à travers nous. Ça, c'est très important. Parce que nous voyons quand Dieu nous donne, qu'il nous donne soit directement, mais généralement parce qu'il les fait les choses ainsi, parce que c'est un grand organisateur, par cause seconde, par intermédiaire, par événement, par un tiers. Et donc, ces tiers-là nous apportent la bonté de Dieu pour nous. Gloire à Dieu. Mais alors, nous sommes pareils pour eux. Et l'Église nous dit que si nous ne donnons pas l'amour, la subsistance, la nécessité, les petits vont manquer vitalement, le frigo est vide. Mais plus profondément encore, ils vont être choqués à un point de ne pas croire la bonté de Dieu pour nous. Et ça, nous ne pouvons pas enlever ça aux petits. Nous ne pouvons pas leur permettre de croire que le Père ne les aime pas. D'où l'importance de donner. Parce qu'il s'agit là de montrer que Dieu leur donne. Vous voyez, c'est interconnecté. Et ça, c'est nécessaire. Et donc, dans le donne-nous, il y a cette capacité aussi que ça va passer par d'autres. Et donc, du coup, nous-mêmes, il va falloir donner aux autres. Donner le nécessaire et donner aussi l'essentiel. Voilà, ce que dit l'Église à propos de cette demande interconnectée, cette demande de la prière du Notre Père, donne-nous, il faut la mettre en lien ne pas l'isoler, la mettre en lien avec les paraboles, par exemple, du pauvre Lazare, Luc 16, versets 19 jusqu'à 31, ou du jugement dernier, Matthieu 25, 31-46. Jugement dernier, comme ça, qu'aime beaucoup le pape François, il cite souvent ce passage. Ben, c'est justement ce que nous aurons fait au plus petit de nos frères, ça sera au Christ que nous l'aurons fait. Vous voyez, cette capacité à donner. Parce que le Christ nous traite pareil, hein, comme des petits, celui qui demande, donc il va recevoir. Donc nous aussi, nous devons l'être. Alors, le Seigneur nous donne aussi l'essentiel. Nous donne aussi l'essentiel, et c'est important. Cet essentiel, c'est sa parole. C'est aussi son pain, le pain quotidien, qui est l'Eucharistie. Et voilà, nous voyons que le Seigneur donne tous les jours le pain quotidien, qui est sa parole et qui est l'Eucharistie. Il l'a dit lui-même, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Deutéronome 8, verset 3, et encore Matthieu 4, verset 4. Voilà, le Seigneur donne cela, et s'il donne l'essentiel, ce qui est global, combien plus nous devons croire que par nous ou directement, il est capable de donner le superflu, le nécessaire. Voyez, notre foi en la présence de l'Eucharistie, qui ne manque jamais, c'est pour ça qu'il faut prier pour qu'il y ait des prêtres, mais qui ne manque jamais, doit nous dire combien Dieu veut donner, et s'il donne l'essentiel, combien il est capable de donner le reste, ou même de donner le reste à travers nous, ou à travers les autres. Voilà. Le Seigneur est un Dieu de don, profondément. Voilà, donne-nous aujourd'hui notre pain, aujourd'hui. Ah, je voudrais rajouter quelque chose sur le pain, ça me semble important. Cet adage, je ne sais plus qui est-ce, mais qui est très beau, prie comme si tout dépendait de toi, prie comme si tout dépendait de Dieu, pardon, et travaille comme si tout dépendait de toi. Ce qui est très beau, c'est que si nous rentrons dans la dépendance que Dieu nous on demande à Dieu de nous aider, nous allons découvrir que ce que nous faisons est un don de Dieu. Je me souviens de ce témoignage d'un jeune homme qui passait ses examens et qui priait pour être aidé. Alors il a mis le paquet, hein. Il a travaillé, il a eu son examen bien, bravo. Et au moment de la réussite de l'examen, il a senti que ce n'était pas lui, que c'était Dieu à travers lui, que quelque part le travail, Dieu l'avait aidé, mais le couronnement de ce qu'il avait fait, le fruit du travail, c'était un don de Dieu. Comme elle est vraie cette expérience, et combien il serait bon que nous redécouvrions dans un monde hyper efficace que le fruit de notre agir, c'est un don. Et c'est un don de Dieu. Voyez ? Et que Dieu nous donne le fruit dans notre agir. Et nous donne aussi de faire cela, si nous lui demandons. Donc le don de Dieu n'est pas qu'extérieur. Il est en nous, à travers nous, et il produit des choses. Voyez ? Et des fois, c'est tellement vrai qu'il va nous sublimer. Quand vous regardez la vie des saints, ou même la, voilà, des petits saints, on va penser à Thérèse de Lisieux, c'est une grande sainte, mais il n'y a pas de choses mystiques, a priori. Elle n'était pas bonne en orthographe. Mais vous lisez ses poèmes, c'est génial. Dieu a amplifié ses qualités naturelles. Ça a donné des chefs-d'œuvre spirituels, littéraires. C'est quand même fort. Dieu utilise, et ce qu'on lui donne, il l'agence, il lui fait porter un fruit plus grand. Il l'a rendu fécond. Donne-nous, donne à travers nous, produit quelque chose en nous. Voyez ? Donc on demande au Seigneur de nous donner. Et en fait, nous voyons que l'Eucharistie, qui est le don par excellence, quand nous le recevons, c'est pour donner en nous, pour produire en nous des choses. Donc ça, on est dans une logique du don. Voilà. Alors, je continue, donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une marque de confiance. Vous voyez, c'est comme demander du concret. On ne demande pas pour demain, on demande pour aujourd'hui. Voilà ce que disait saint Ambroise. Si tu reçois le pain chaque jour pour toi, c'est aujourd'hui. Si le Christ est à toi aujourd'hui, tous les jours, il ressuscite pour toi. Comment cela ? et il cite l'Écriture. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand le Christ ressuscite. Et le Seigneur, il agit aujourd'hui. Il est ressuscité, c'est le jour du Seigneur, mais aussi il est vivant, il est là. Et c'est tous les jours qu'il agit. Voilà, c'est tous les jours, il est en train d'agir. Et nous savons que la prière de notre Père, c'est la prière de quelqu'un qui prie en Jésus-Christ, aujourd'hui. Et nous pouvons dire aujourd'hui, mon Père m'a engendré, comme il engendre Jésus, et qui continue à engendrer Jésus en moi, aujourd'hui. Donc c'est du concret. De ce jour, aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est d'abord une redondance par rapport à aujourd'hui de ce jour, ça rend, encore, ça amplifie l'aspect concret. Mais il y a aussi plusieurs sens à cela. Ça nous fait penser aussi à l'aujourd'hui de Dieu. C'est toujours le jour du Seigneur. Exode 16, 19, 21. Dieu donne les choses sans limite. Voilà, de ce jour. Ça, c'est important. Et en même temps, c'est tourné vers la résurrection du Seigneur. Parce que le Seigneur est le jour par excellence. Et voilà ce que nous dit l'Église. En effet, le sens céleste est évident. Ce jour est celui du Seigneur, celui du festin du royaume, anticipé dans l'Eucharistie, qui est déjà l'avant-goût du royaume qui vient. C'est pourquoi il convient que la liturgie eucharistique soit célébrée chaque jour. Chaque jour, nous nous préparons au grand jour, qui est le ciel. Voyez ? Je vais prendre un autre exemple, c'est le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, on dit aussi c'est le huitième jour. Il y a sept jours dans la semaine, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que c'est le jour de la résurrection, le jour par anticipation du ciel. Et quand sans arrêt nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, on pense à ce jour final, que nous sommes déjà en train de vivre en germe. Le Christ ressuscité nous donne ce qu'il faut maintenant, il vit en nous, il nous prépare au grand jour, et dans notre prière, on s'y prépare. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Voilà. Voilà ce que disait saint Augustin. L'Eucharistie est notre pain quotidien. La vertu propre à ce divin aliment est une force d'union. Elle nous unit au corps du Sauveur et fait de nous ses membres, afin que nous devenions ce que nous recevons. Nous devenions ce que nous recevons. Et là, nous voyons la logique du don. Le Seigneur nous donne l'essentiel pour que nous-mêmes nous devenions don. Ce pain quotidien est encore dans les lectures que vous entendez chaque jour à l'Église, dans les hymnes que l'on chante et que vous chantez. C'est aussi le pain de la parole. Tout cela est nécessaire à notre pèlerinage. Voilà, je rajouterai, tout cela est nécessaire jusqu'au jour du Seigneur. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc nous voyons que la foi chrétienne, c'est demander parce qu'on croit que c'est Dieu qui va donner. Donc c'est toujours Dieu qui est le premier. C'est jamais nous les premiers. Hein. Première, je crois que c'est dans l'épître de Saint Jean, une des épîtres de Saint Jean. Dieu nous a aimés le premier. Donc c'est vraiment pas du tout du moralisme. La version « je vais faire », ça marche pas. C'est « je vais faire parce qu'il a fait pour moi. Et qu'il fait à travers moi quand je fais. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et là, une illustration parfaite. C'est la béatitude « heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » C'est d'abord Dieu qui nous fait miséricorde. Pardonne-nous nos offenses. Et de la miséricorde de Dieu, cette expérience du pardon, nous pouvons pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas d'abord nous. Donc il est clair que nous avons besoin de demander le pardon à Dieu. Nous avons besoin de demander le pardon à Dieu. Vous savez, on m'a raconté cette anecdote, quand même une anecdote, on pourrait dire, de fou. C'est une personne qui sort de camp de concentration et qui tient un témoignage en disant que Dieu peut pardonner cette personne de camp de concentration avait vécu la persécution par les nazis et avait été torturée. Elle dit que Dieu peut pardonner. Et à un moment donné, il y a une personne dans l'assemblée qui lève la main et qui dit « Mais vous êtes sûr que Dieu peut tout pardonner ?»« Oui, oui, il peut me pardonner aussi ce que j'ai fait. » Là, jusque-là, c'est un peu plus standard. Mais la chose se personnalise énormément, c'est que la conférencière découvre que la personne qui dit ça, c'est un de ses anciens bourreaux. On monte d'un cran au niveau là. Et la conférence, lui, non, n'a pas reconnu ça, mais elle, oui. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et bien, elle a prié au fond de son cœur, Seigneur, que moi la grâce du pardon. Et elle lui a dit, oui, Dieu peut tout faire. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite au pardon de Dieu. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. La limite que nous mettons à la miséricorde de Dieu dans nos vies, c'est le non-accueil de sa miséricorde. C'est ce qu'on appelle le péché contre l'esprit. Le seul qui ne sera pas pardonné, c'est le refus d'accueillir le pardon, le refus d'accueillir l'amour, le refus d'accueillir la miséricorde. Mais si nous l'accueillons, il n'y a pas de limite en nous. Alors on va préciser cela parce que c'est important. La première chose, c'est que si nous voulons recevoir le pardon, il nous faut rentrer dans une logique de pardonnant, même si nous ne sommes pas capables de pardonner encore. Pourquoi ? Parce que le cœur qui veut pardonner se prédispose à recevoir l'aide de Dieu, parce que celui qui veut être pardon veut être de la même nature que celui qui pardonne. Celui qui ne veut pas pardonner veut rester un non-miséricordieux. Et Dieu ne peut pas rentrer dans un cœur qui n'est pas comme lui. Dieu ne peut rentrer que dans un cœur qui est comme lui. Un peu pareil. Il va l'amplifier, mais un peu pareil. Et c'est pour ça que celui qui veut pardonner reçoit la miséricorde. Celui qui ne veut pas pardonner se ferme à la miséricorde. Et son cœur s'endurcit. Non pas que Dieu ne peut pas l'aider, mais c'est qu'il se bloque. Il se bloque. Donc il y a un vrai enjeu pour nous, à même quand nous n'arrivons pas, à demander « Je veux désirer pardonner. Je veux désirer pardonner. » Et ainsi le pardon peut prendre son temps, parce que la miséricorde de Dieu, si elle est directe, elle envahit progressivement nos vies. Et ça peut prendre des fois des années, mais ça, on peut se laisser envahir. Un autre élément important, c'est que le pardon n'est pas l'oubli de la mémoire. Le Christ ressuscité a les marques de ses plaies, de ses bourreaux. Il se souvient, mais il a pardonné. Souvent, on croit que parce qu'on se souvient, on n'a pas pardonné. Eh ben non, on peut se souvenir et avoir pardonné. C'est deux choses différentes. Comme on peut être blessé dans sa mémoire par tel ou tel péché, mais décider de ne pas le vivre, c'est deux choses différentes. On voudrait, quand on est pardonné, ou on voudrait être tout saint, comme si on était une feuille vierge qui n'a pas d'histoire. Ben, il reste l'histoire. Mais le Seigneur a pardonné, a purifié. Il reste l'histoire. Vous voyez ? Le Seigneur n'enlève pas la mémoire. Eh bien, c'est pas grave. Parce que la mémoire peut servir même comme lieu de glorification de la miséricorde de Dieu. Il y a eu ça dans ma vie. Je m'en souviens, mais la miséricorde de Dieu agit. C'est des fois permis pour se souvenir du lieu de la miséricorde. Ça peut nous rendre miséricordieux. J'ai vécu ça. Je sais ce que c'est. Je suis adapté à aimer ce que l'autre vit. Voyez, c'est dans le concret que la miséricorde va se faire. Un prêtre un jour a dit ça, j'ai trouvé ça très vrai. La miséricorde de Dieu, elle rentre dans les fissures. Hein? Dieu nous transforme et nous guérit dans les blessures. Celui qui est complètement nickel, déjà ça n'existe pas, mais c'est dans les fissures que nous recevons l'amour de Dieu. Dans les fragilités, dans les péchés. Et ces deux, quand ils sont assainis et pardonnés, il y a la trace. Mais c'est purifié. C'est comme la plaie qui s'est cicatrisée, il y a la petite cicatrice. Toujours est-il, à ce moment-là, le discours est le plus vrai sur nous, parce que nous avons un discours de sauver, et non pas simplement de celui qui connaît, mais de celui qui existentiellement a été pardonné. Ce qui n'a rien à voir de parler avec ses tripes que de parler en théorie. Ça, c'est très important. Et donc, c'est vital. Et là, de la même manière, c'est progressif. Nous sentons, quand nous cheminons, que la dépendance devient de plus en plus grande. Un chrétien, en réalité, plus il va vers la lumière, plus il sent qu'il peut offenser Dieu, plus il sent qu'il est dépendant de la miséricorde de Dieu, plus il demande sans cesse son pardon. Plus il sent aussi son incapacité à véritablement pardonner selon Dieu. Parce qu'on peut pardonner à la manière humaine. Alors elle est belle, la manière humaine. On essaie tous de le faire. Mais la manière humaine peut être la manière froide, distante. Ok, c'est fait, on n'en parle plus, mais pas de contact. C'est fini. Mais c'est pas chrétien. Aimez vos ennemis. Donnez votre vie pour eux. Ça va plus loin. C'est une réconciliation. C'est un recontact. Et au ciel, ce sera la nouvelle communion. Ah oui, ça, je ne peux pas le faire humainement. Mais on ne t'a pas dit de le faire humainement, simplement. On t'a dit de le faire avec l'aide de Dieu. Donc, tu as besoin de Dieu. Ça va plus loin que ta manière de faire. Vous voyez, le pardon humain, des fois, est un pardon glacial qui ressemble plus, parfois, à de l'ordre judiciaire. On est en règle, on en reste là. C'est pas du pardon. Les papes rappellent que l'ordre, la paix, vient par la justice. Il faut la règle, le cadre. Mais c'est le pardon chrétien, la réconciliation, la recommunion, l'amour qui dépasse la blessure quand elle est assainie, qui va recréer la paix. Ça, c'est autre chose. Voyez. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà ce que dit l'Église. Je crois que c'est important de l'entendre. Il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir ou d'oublier l'offense. Mais le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion et purifie la mémoire en la transformant, en transformant l'offense en intercession. Le top, c'est un truc de fou, mais le top, c'est le martyr qui prie pour son bourreau. Mais c'est le top de l'amour. C'est extraordinaire, ça. Il a de la compassion. En fait, c'est exactement le Christ. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez. Ce qui est extraordinaire dans le mystère de Dieu, c'est que ce qu'on encaisse, si on rend dépendant avec Dieu, nous rend plus forts. Ce qu'on encaisse nous rend plus humains et plus sains. Dieu peut se servir de tout. Quand il dit « Sois vainqueur du mal par le bien », il connaît l'alchimie pour arriver à cette fin. C'est extraordinaire. Voilà. Donc il faut à nouveau repenser que dans l'instant présent, la volonté de Dieu va nous faire grandir. Que tous les éléments de notre vie, Dieu peut les combiner comme un bon alchimiste pour arriver à sa fin. Voilà, donc ça c'est important. Et puis le sommet de la prière chrétienne, vraiment, c'est de prier pour ceux qui nous persécutent. Voilà ce que dit l'Église, encore une fois. Le pardon est un sommet de la prière chrétienne. Le don de la prière ne peut être reçu que dans un cœur accordé à la compassion divine. Le pardon témoigne aussi que Dieu, dans notre monde, l'amour est plus fort que le péché. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de « ne nous soumets pas à la tentation ». Vous savez que la formule va changer. Bientôt, on va parler de « ne nous laisse pas entrer en tentation » et qu'autrefois, on a parlé de « ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Ça a créé pas mal de débats. Alors, on va rentrer un peu dedans pour expliquer les choses. Et d'abord, peut-être à partir de l'Écriture, ce qui me semble important, et je vous disais que nous voyons les choses en pénombre, parce que l'expérience du mal est telle, dans nos vies, l'incertitude de Dieu, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il permet, qu'on ne voit pas les choses en pleine clarté. Et même si les dogmes, la foi, nous sont donnés, on en perçant, selon notre degré d'attache spirituelle, plus ou moins la lumière, mais ça reste en obscurité. Il est bon d'entendre certains versets de l'Écriture qui nous éclairent, même si ça peut nous sembler encore étonnant, qui nous éclairent sur un point important. Jacques, chapitre 1, verset 13. Dieu n'éprouve pas le mal, il n'éprouve non plus personne. Alors je n'aime pas tout à fait la traduction ici, donc je vais la citer autrement, si je l'ai. Voilà. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu » Dieu en effet ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. Voilà la première lumière. Dieu en aucun cas est l'auteur du mal. Dieu n'a jamais fait le mal. Dieu n'a jamais tenté personne. On n'en est pas sûr, hein? On n'en est pas sûr parce qu'on est en retard.